Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada.
Invité aujourd'hui du podcast de l'aviation, Bastien Mancini, président de Delair. Bonjour Bastien Mancini.
Bonjour.
Alors Bastien Mancini, Delair, c'est l'histoire d'une start-up lancée en 2011 qui profite aujourd'hui de ce concept d'économie de guerre avec la guerre lancée en Ukraine, c'est un peu ça?
Pas exactement, puisque Delair, c'est une start-up en effet créée en 2011, une start-up qui a grandi d'abord sur le marché civil. Il ne faut pas oublier qu'on vient de là, on est une entreprise qui s'est lancée pour faire des inspections industrielles de pipelines, de lignes électriques. Donc que des applications civiles. Après, on s'est développé sur d'autres marchés, les géomètres, l'agriculture. Et donc, on a été amené à produire des drones avec certains volumes, alors qu'ils sont des volumes modestes par rapport aux drones grand public qu'on voit à la FNAC, mais qui restaient significatifs. Et ces marchés civils nous ont appris à avoir une organisation industrielle, à être capable de faire des produits en série. Ça prend du temps, c'est pas facile. C'est vraiment de l'industrie. Hein. Si on pense aux premières automobiles il y a 100 ans, et puisque c'est devenu, il y a vraiment une organisation industrielle qui s'est mise en place. Et donc là, récemment, on a eu des commandes assez significatives dans le cadre de l'économie de guerre, ce qui s'appelle comme ça. Mais ce qui, pour nous, d'un point de vue industriel, n'est que une augmentation de cadence sur certains marchés, sur une verticale, en l'occurrence la défense, mais qui va utiliser toutes les méthodes, toutes les compétences, les savoir-faire qu'on a mis en place sur le civil. Et par exemple, pour prendre peut-être un exemple un peu parlant, sur le marché civil, on est en compétition avec un tas d'entreprises, qui sont très bien d'ailleurs, américaines, chinoises, allemandes, israéliennes, et on a une contrainte de pouvoir livrer assez vite nos produits. Et ça fait 10 ans. Quand on a nos commerciaux qui veulent gagner un marché, ils me disent là, le client, il achète, mais si on s'est livré sous un mois ou sous deux mois, pas sous 9 mois ou un an. Donc, on a dû mettre en place des stocks pour être capable de se placer dans la compétition. Et donc, par exemple, de gérer ces stocks, ça fait qu'on est capable d'être assez réactif, mais c'est pour répondre à un besoin en fait, de compétitivité civile. Donc ensuite, quand dans un cadre sur le marché de la défense, on nous réclame, on nous commande des drones assez vite, on sait y répondre parce qu'on a cette organisation industrielle qui a été mise en place, mais à la base sur des besoins civils.
Alors sur les besoins militaires, cette dualité, elle commence qu'en 2014, sous Jean-Yves Le Drian, c'est ça?
Oui, c'est ça. On a commencé, et d'ailleurs je salue la DGA qui nous a mis le pied à l'étrier avec un premier programme d'innovation qui s'appelait RAPID. Programme RAPID qui nous a permis, parce que ça a cofinancé le développement de notre drone, le DT-26, qui vole aujourd'hui en Ukraine. C'était un programme que j'ai trouvé très intéressant. On a travaillé avec deux sociétés partenaires, Airbus, à l'époque s'appelait Astrium, et Magellium, une société toulousaine. Et c'est un programme d'innovation qui insistait sur le caractère dual de l'innovation. Donc on a développé un drone dans le cadre de ce RAPID, financé par la DGA, et notre premier client, ça a été la SNCF. Donc vous voyez, une application civile pour de l'inspection des voies ferrées. Et d'ailleurs, là aussi, je salue le courage des gens de la SNCF à l'époque qui ont été pionniers parce qu'il fallait vraiment se projeter un petit peu loin en avant pour se dire on va utiliser un drone pour nous aider dans ces inspections, sur la surveillance des voies ferrées. Et ça a payé parce que ça a permis d'avoir toute une expérience dans ce domaine. Ça a aussi été permis grâce à la DGAC, donc la réglementation civile, qui a vraiment, il faut le souligner parce que ce n'est pas toujours le cas, on se plaint souvent de la réglementation qui ralentit. En 2012, les gens qui ont mis en place la réglementation française ont été courageux, ont permis à une industrie, pas seulement à Delair, mais à toute une industrie du drone de se développer en France, parce qu'ils ont mis en place des choses très novatrices, très innovantes en termes réglementaires. Ils ont permis à ce que des drones puissent voler hors vue dans l'espace aérien civil, alors selon certaines conditions de sécurité qui ont été précisées au fur et à mesure. Mais c'était vraiment un acte qui a permis le développement de toute cette industrie. Et aujourd'hui, si on a des drones qui volent en Ukraine, qui fonctionnent, qui donnent satisfaction aux opérateurs, ça vient de là. Et donc de toute cette industrie civile et de tout ce mouvement qui est né au début des années 2010.
Alors aujourd'hui, vous êtes très très largement soutenu par la DGA avec des commandes qui affluent.
C'est vrai qu'on préfère, en tant qu'industriel, largement grandir par des commandes de produits sur étagère. On a développé nos produits sur fonds propres. J'ai parlé tout à l'heure du programme RAPID qui nous a permis de développer le DT-26. Ça a été quelques centaines de milliers d'euros qui ont été mis par la DGA et qui ont été très utiles. Mais il ne faut pas oublier qu'on a levé plusieurs dizaines de millions d'euros de fonds privés. Donc c'est des investisseurs privés qui ont permis le développement de Delair. Et cet argent, on l'a dépensé pas parce qu'on nous a dit faites un drone comme ci ou faites un drone comme ça, parce qu'on a perçu, on s'est dit tiens, le marché a besoin d'un drone comme ci ou comme ça, mais c'est nous qui avons fait nos propres produits. Et on a dépensé les millions avant de savoir si on allait réussir à les vendre. Et c'est tout l'enjeu et toute la difficulté. Et d'ailleurs, ça nous arrivait de nous tromper. Ça nous arrivait de développer un produit, puis il n'y avait pas de marché pour ce produit. Donc il a fallu se retourner. Et ça, c'est toute la vie d'une société. Et ce n'est pas facile, c'est risqué. Quelque chose qui me paraît important, c'est le temps qu'on met à développer ces produits. On fait des produits industriels de série. On ne fait pas des prototypes. C'est facile de faire un drone une fois et puis même de faire un film YouTube dessus en disant « Tiens, j'ai un drone qui fait ceci ou cela ». C'est beaucoup plus compliqué de faire un produit industriel de série qu'on va fabriquer par centaines, où on va pouvoir garantir aux clients la fiabilité, la robustesse, la répétabilité de tout ce qu'il y a. Parce qu'une fois qu'on a fait le prototype, après il faut définir le plan de production, les plans de contrôle, qu'est-ce qu'on met en place pour fiabiliser le système, comment on suit le cycle de vie avec les obsolescences, etc. Donc tout ça, c'est un travail industriel. Et on est une société jeune, donc voilà, on a encore beaucoup de choses à faire, à progresser dans ce domaine, mais tout ça, ça prend du temps. Et ce temps, dans un environnement changeant, il fait que si vous avez prévu un produit pour un marché, ça se trouve, dans 3 ans, ce que vous aviez en tête ne correspond plus au marché. Il y a un risque, ça c'est indéniable. Mais on est dans un environnement compétitif avec d'autres entreprises au niveau mondial qui développent des produits. Et donc, ce qui nous fait fonctionner, marcher, c'est faire des produits qui donne satisfaction à nos clients. Ça paraît un peu bateau à dire comme ça, mais on ne court pas après des programmes de support, de soutien, on ne va pas chercher ça. On prend des risques, qu'on essaye de modérer, mais on prend des risques et on essaye de faire des bons produits pour le marché, et ce n'est pas facile et parfois on se trompe.
Alors justement, dans cette logique d'économie de guerre, dans ce concept d'économie de guerre, vos drones ont évolué avec l'utilisation de nouveaux matériaux. On recherche la furtivité, la discrétion la plus grande possible.
Oui, alors pour les drones qui sont en Ukraine par exemple, nous on vend des drones en Ukraine depuis 2016. La Russie a envahi l'Ukraine en 2014, il y a eu des accords, les accords de Minsk, qui ont amené un respect des frontières de l'époque, et donc une organisation européenne de maintien de la paix, l'OSCE, a commencé à travailler, à surveiller ces frontières. Donc l'OSCE nous a commandé des drones en 2016, c'était des DT-18, notre premier modèle de drone. Ils ont fait des dizaines de milliers de vols pour surveiller la frontière avec la Russie, de 2016 à 2022. Et il y avait un contexte de brouillage, de guerre électronique. Donc il y avait déjà des systèmes brouillés. Donc on a appris des choses avec nos drones à cette époque-là. Alors c'était des conditions moins adverses que ce qu'on a observé plus récemment. Mais quelque part, nos produits étaient déjà habitués ou conçus, ou on avait déjà observé ce genre de choses. On avait des remontées d'informations aussi de plein de monde, y compris des forces françaises qui nous disaient dès 2018-2019, il faut faire des systèmes maintenant qui résistent à tous les brouillages, parce que c'est ça qui se passe en vrai sur le terrain. Ils le voyaient notamment dans le cadre de conflits où il pouvait y avoir, même si ce n'était pas en Ukraine, des systèmes de brouillage qui étaient mis en place. On a travaillé là-dessus. Nous, ce qui s'est passé, c'est que en 2022, donc, la Russie a franchi la frontière, l'OSCE est parti. Je pense que les Ukrainiens, du coup, connaissaient nos systèmes ou connaissaient notre marque et donc sont venus nous solliciter. Ça a pris un peu de temps quand même, ça a pris un an de discussion. Ils voulaient qu'on vienne faire des essais chez eux, c'était compliqué à organiser, mais on est fini par venir faire des essais chez eux, en conditions de brouillage, sur des terrains, voilà. Ça a fonctionné, là ils ont dit on aimerait avoir vos drones. Donc ils ont demandé à la France, c'est la France qui a financé. Et depuis que nos drones, et ils sont utilisés sur le front au quotidien, et on a des retours d'informations autour de ça, et qui nous permettent, nous, d'améliorer nos systèmes. On apprend encore beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a aussi un intérêt côté français, d'avoir un industriel français qui a des systèmes qui sont au niveau de ce qui se fait le plus à jour, on va dire, dans ce domaine. Et vous voyez, sur les livraisons, en quelques mois, on a rajouté une quinzaine de fonctionnalités, de nouvelles choses en fonction de l'expérience et du retour qu'on a eu sur le terrain, sur le front, avec les conditions de guerre et de brouillage.
C'est quoi la durée de vie moyenne d'un drone en Ukraine? On a des chiffres qui disent c'est de l'ordre de 20 secondes, c'est ça ou c'est complètement faux?
C'est difficile pour moi de répondre précisément, mais en tout cas, c'est complètement faux sur un certain nombre de drones, en tout cas sur les nôtres. Déjà, vous savez, le terme drone est un terme compliqué parce que ça décrit à la fois un jouet de 30 grammes et un bombardier de 10 tonnes. Et chacun y met ce qu'il imagine derrière ce mot, et c'est pas du tout la même durée de vie pour un petit drone 100 grammes ou de 500 grammes et pour des drones de 15-20 kilos comme les nôtres qui volent dans des conditions différentes, qui sont employés de manière différente. Donc c'est compliqué d'avoir une réponse générique à ça, mais c'est sûr qu'il y a une survivabilité des drones sur le théâtre qui est, on va dire, plus courte que dans des conditions d'emploi civil l'habituel.
On parlait tout à l'heure de discrétion, donc avec aujourd'hui l'utilisation pour vous de nouveaux matériaux et des drones quasiment indestructibles aussi, c'est ça ?
Alors non, ils ne sont pas indestructibles.
Le plus résistant possible, on va dire, voilà.
Voilà, ils sont le plus résistant possible. Il y a des choses sur les matériaux, c'est des drones électriques qui font très peu de bruit, qui n'ont pas une surface visible par les radars qui est faible, donc c'est des systèmes qui sont discrets. Nos drones, on ne les entend pas à 200 mètres. Et d'ailleurs, je pense que c'est un rapport intéressant à bien percevoir. Le moyen d'observation aérien traditionnel, ce sont les hélicoptères. Un hélicoptère, c'est une machine qui pèse une tonne parce qu'il faut porter un pilote de 100 kg. Donc une fois que vous avez ça, voilà, faut faire une grosse machine, ça fait du bruit. Et un hélicoptère, on l'entend à 5 km. Donc il doit avoir des caméras très puissantes pour pouvoir voir à plus de 5 km puisque lui-même, il est repéré à 5 km. Nous, on a des drones qui ne sont pas repérés à 200 mètres. Et ils ont des caméras qui peuvent voir très bien des gens à 1, 2, 3 kilomètres. Et donc, le rapport entre la distance à laquelle il peut être perçu et la distance qu'il perçoit est très important et finalement très favorable aux drones par rapport à ce qu'on peut voir sur le moyen traditionnel type hélicoptère. Et d'ailleurs, je pense que ça, c'est une tendance un peu de fond. Comme je vous ai dit, l'hélicoptère, il faut porter le pilote, mais la technologie permet depuis donc quelques années ou quelques dizaines d'années de ne plus avoir le pilote à bord de la machine. Donc il y a un tas d'applications évidemment où l'hélicoptère reste nécessaire et c'est le meilleur outil possible, il n'y a pas de débat là-dessus, mais il y a un tas d'applications d'observation aérienne où finalement, puisqu'on peut mettre technologiquement le pilote au sol, on peut faire une machine plus petite, plus discrète, plus frugale aussi en termes d'énergie. C'est important, on a fait des calculs, là je reviens sur le civil, mais sur l'inspection des lignes électriques par exemple, un drone à performance à peu près équivalente émet 3000 fois moins de CO2 qu'un hélicoptère qui fait la même chose. Voilà, je pense que c'est une tendance de fond qui va se développer, qui nécessite encore des travaux sur la réglementation pour que les usagers de l'espace aérien puissent partager cet espace de manière harmonieuse pour assurer la sécurité des tiers qui sont au sol et puis dans les airs. Mais c'est une tendance de fond qui est amenée à se développer. Et aujourd'hui, les grands acteurs mondiaux du drone sont américains, chinois, israéliens. C'est des entreprises qui sont à plus de 300 millions de chiffres d'affaires, jusqu'à 2 milliards. En Europe, vous avez quelques entreprises allemandes, portugaises, autrichiennes qui sont entre 30 et 50 millions de chiffres d'affaires. Mais il y a une place à prendre de leader européen. En France, vous avez Parrot qui fait quelques dizaines de millions d'euros dans les drones, qui est une très belle entreprise, qui fait des drones plus petits que ce qu'on fait nous, mais qui fait plus de chiffre d'affaires. Vous avez nous et puis une trentaine d'autres entreprises. Donc il y a une industrie française qui est en train de se développer, mais qui est encore petite à l'échelle mondiale et même à l'échelle européenne. Donc il y a une place de leader européen à prendre, qu'on essaye de construire d'ailleurs en travaillant tous ensemble, parce que je pense qu'on est tous trop petits les uns les autres. Mais il y a une place à prendre. Et voilà, comme je disais, cette tendance de fond, elle arrive. Ça, j'ai pas de doute dessus. J'aimerais qu'on arrive à participer et à contribuer à ce qu'il y ait un industriel français qui émerge dans tout ça.
Bastien Mancini, président de la société de drones Delair, implantée à La Bêche, près de Toulouse, que nous retrouverons la semaine prochaine.